Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Nous commençons par le coronavirus. Les États-Unis ont enregistré pour la deuxième journée consécutive près de 2000 morts liées à la pandémie selon l'université Johns Hopkins. Il s'agit une fois de plus du pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie. Ce record porte à 14 695 le nombre total de décès recensés. La première puissance mondiale dépasse désormais l'Espagne, 14 555 morts, mais reste moins endeuillée jusqu'ici que l'Italie, 17 669. Les États-Unis comptent par ailleurs à eux seuls plus d'un quart des cas officiellement déclarés dans le monde, 429 052 au total, toujours selon Johns Hopkins. L'État de New York, qui constitue de loin le principal foyer de l'épidémie américaine, a enregistré une nouvelle progression record au cours des dernières 24 heures, mais la situation s'y stabilise, a tenté de rassurer mercredi son gouverneur, Andrew Cuomo, tout en rappelant que les New-Yorkais n'étaient absolument pas sortis d'affaires. Les autorités ont prévenu la semaine passée qu'entre 100 000 et 240 000 personnes au total pourraient mourir du COVID-19 aux États-Unis. Mais le président Donald Trump s'est dit confiant de pouvoir faire beaucoup mieux que ses projections. La pandémie a contaminé plus de 1,5 million de personnes à travers le monde et fait au moins 87 320 morts dans 492 pays et territoires depuis son apparition en décembre en Chine, selon l'AFP. Le président malgache, Ange Rajoel, a affirmé mercredi soir qu'un remède à base de plantes était susceptible de soigner les malades du coronavirus. J'ai reçu une lettre le 24 mars indiquant que Madagascar possède le remède qui pourrait, au conditionnel, car on doit encore le prouver, guérir le coronavirus. Cette plante médicale peut tout à fait guérir le coronavirus, a-t-il assuré au cours d'une émission télévisée. M. Rajoel n'a pas précisé le nom de cette plante ni l'auteur de la lettre qu'il a citée. On va faire les essais et je suis convaincu que Madagascar va trouver ce remède, a poursuivi le chef de l'État malgache, assurant que des scientifiques et des laboratoires de plusieurs pays étaient prêts à y participer. On peut changer l'histoire du monde entier, a-t-il ajouté. La Banque africaine de développement a annoncé mercredi avoir créé un fonds de 10 milliards de dollars qui doit aider les pays africains à lutter contre le coronavirus sur le continent. L'Afrique est confrontée à d'énormes défis budgétaires pour agir efficacement face à la pandémie, a reconnu le président de la BAD, Aki Nouimi Adesina. De nombreux pays africains ont déjà fait état de problèmes budgétaires ou demandé de l'aide internationale. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a réclamé un plan Marshall pour l'Afrique, alors que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé en mars au G20 d'alléger la dette des économies les plus vulnérables et de préparer un plan d'aide financière d'urgence d'une valeur de 150 milliards de dollars. Un groupe de médecins chinois est arrivé mercredi au Nigeria pour aider le géant ouest-africain à lutter contre la pandémie, une arrivée critiquée par plusieurs associations locales de professionnels de la santé, explique l'une d'entre elles. C'est très mauvais pour le moral du personnel de santé qui est en première ligne et qui souffre de voir le pays inviter ses médecins chinois plutôt que de leur fournir des équipements adéquats. Arrivé à bord d'un avion chargé d'équipements médicaux, l'équipe de 15 personnes doit rester un mois au Nigeria. Vous êtes à l'écoute de VOA.
La suite de nos informations En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est en prison depuis hier, après 7 longues heures d'interrogation au parquet de la Cour d'appel de Kinshasa. Le point avec Eddy Issango.
Vital Kamerhe était convoqué et interrogé au sujet des travaux de construction des grands ouvrages devant marquer les 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi. Des sources du parquet ont confirmé après interrogatoire qu'il a été conduit sous bonne escorte au centre pénitentiaire de Kinshasa à Makala. Il s'agit jusque-là d'un mandat d'arrêt provisoire. Les procureurs les gardera pour l'entendre d'abord pour 5 jours, puis si nécessaire 15 jours et encore plus longtemps avant de l'envoyer pour jugement devant un tribunal, a expliqué à VOA Afrique maître Georges Kapiamba de l'Association pour l'accès à la justice. Monsieur Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, avait géré les programmes des 100 jours de Félix Tshisekedi. Deux jours plus tôt, il avait refusé de répondre à une première convocation du procureur général sous prétexte d'irrégularité. Avant lui, d'autres personnalités, dont des chefs d'entreprise, des banques ou des gestions des projets, ont été jetés en prison après avoir été entendu par le même parquet. Bien avant son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi avait promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité.
La justice nigérienne va ouvrir une enquête dans l'affaire des surfacturations et des livraisons non effectuées lors d'achats d'équipements militaires, a annoncé le parquet mercredi. Des détails avec Eki Abadou.
Le rapport d'audit sur les surfacturations au ministère de la Défense sera transmis pour enquête, a assuré hier Samna Chaibou, procureur de Niamey. Il concerne l'attribution de marchés de 2017 à 2019 sur 177 dossiers susceptibles de poursuites pénales. Fin février, le gouvernement a annoncé qu'un audit a révélé ces surfacturations et livraisons non effectuées dans des achats d'équipements militaires. Les autorités avaient annoncé la décision de faire rembourser les sommes indûment perçues sans préciser leur montant ni les personnalités mises en cause. Le 9 mars, le secteur judiciaire a été paralysé par des magistrats demandant aux autorités de transmettre l'affaire à la justice. Le 15 mars, de violents heurts ont opposé les forces de l'ordre et des manifestants réclamant des sanctions. Ce scandale a d'autant plus choqué que près de 200 soldats ont été tués dans des attaques revendiquées par le groupe État islamique au Grand Sahara, dans la région de Tillaberi, proche de la frontière avec le Mali.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme que l'heure est à l'unité, alors que le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, demande que la pandémie de coronavirus ne soit pas politisée, après que le président américain a accusé l'agence de l'ONU d'être trop proche de la Chine et de mal gérer l'épidémie. Jacques Aristide.
Interrogé hier sur les critiques de Donald Trump, M. Ghebreyesus a appelé à ne pas jouer avec le feu. S'il vous plaît, mettez en quarantaine la politisation du Covid. Nous ne faisons pas de politique à l'OMS, dit-il. Le président Trump a notamment critiqué la décision de l'OMS de se prononcer contre la fermeture des frontières aux personnes provenant de Chine au début de l'épidémie. Il a menacé de suspendre le financement américain à l'agence onusienne, dont Washington est le principal contributeur. Le directeur général de l'OMS a remercié les États-Unis pour leur généreux soutien contre la pandémie et a appelé le monde à rassembler son énergie. Les États-Unis et la Chine devraient s'unir pour combattre ce dangereux ennemi, a-t-il conclu. Pour sa part, Antonio Guterres, le patron de l'ONU, affirme que le moment n'est pas venu de tirer des leçons sur le travail de l'OMS sur le Covid-19, mais de rechercher l'unité. D'après le secrétaire général de l'ONU, il est possible que des lectures différentes soient faites par différentes entités sur les mêmes faits. Pour lui, une fois la pandémie achevée, il y aura un temps pour revenir en arrière sur les réactions des acteurs dans ce dossier. Maintenant, c'est le temps pour travailler ensemble, en solidarité, pour arrêter ce virus, ajoute Antonio Guterres.
Ici aux États-Unis, Bernie Sanders a abandonné hier la course à la Maison-Blanche. Il a promis de travailler avec Joe Biden et a appelé au rassemblement pour battre Donald Trump en novembre. Claire Morin-Gibourg.
Le sénateur indépendant Bernie Sanders, 78 ans, a annoncé hier qu'il abandonnait la course à la Maison-Blanche. L'ancien vice-président Joe Biden est désormais assuré d'affronter le président sortant Donald Trump le 3 novembre. Joe Biden doit encore être désigné officiellement candidat par le Parti démocrate lors d'une convention qui a été reportée au mois d'août à cause de la pandémie du coronavirus. Bernie Sanders a salué Joe Biden comme un homme très respectable et il a affirmé qu'il travaillerait avec lui pour faire avancer son programme résolument ancré à gauche. L'ancien vice-président a rapidement tendu la main aux partisans de Sanders, disant sur Twitter « Je vous vois, je vous entends, j'espère que vous nous rejoindrez, nous avons besoin de vous ». Bernie Sanders a annoncé qu'il resterait dans les primaires restantes afin d'accumuler plus de délégués qui lui permettront d'exercer une influence significative sur le programme du parti. C'était sa deuxième tentative pour décrocher l'investiture démocrate. En 2016, il avait perdu face à Madame Hillary Clinton.
La Minute Écho et qui a bon.
Les autorités soudanaises ont annoncé une légère hausse du prix du pain à Khartoum, presque un an après la chute du président Omar el-Béchir, provoquée par des manifestations contre le prix du pain. Ahmed Abdoum, le gouverneur de l'état de Khartoum, a indiqué qu'une miche de pain de 50 grammes serait désormais vendue, une livre soudanaise qui permettait auparavant d'acheter une miche de 70 grammes. Au Mali, la fermeture de certaines frontières a des répercussions sur l'économie. Depuis l'annonce des mesures prises par le gouvernement mauritanien dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les prix de certains produits comme le sucre, l'huile, le lait en poudre ont connu une légère hausse sur le marché de Nara, une zone sahélienne dont l'économie est fortement dépendante de l'élevage et du commerce de produits importés de la Mauritanie. La pandémie du Covid-19 met à mal les pays de la CEMA qui devraient perdre entre 992 et 2653 milliards de francs CFA de recettes pétrolières en 2020. La Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon et le Tchad seront plus sévèrement touchés par cette baisse des recettes, le pétrole contribuant dans certains cas jusqu'à 80% aux recettes globales de ces pays.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Basketball pour commencer. Le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré qu'il ne prendrait pas de décision sur le maintien ou l'annulation de la saison avant le mois de mai. La NBA a suspendu jusqu'à nouvel ordre sa saison au soir du 11 mars après que le pivot français de Utah Jazz, Rudy Gobert, a été le premier joueur de la Ligue testé positif au Covid-19. Depuis, une quinzaine d'autres joueurs de la Ligue ont aussi contracté le virus. La saison régulière devait se terminer le 15 avril et les playoffs débuter le 18 pour aboutir au final début juin. Monsieur Silver a également révélé qu'aucune décision n'a été prise sur la reprise de la saison régulière ou l'idée de redémarrer directement au stade des playoffs. En football, des dirigeants de la FIFA ont reçu des pots de vin pour voter en faveur de l'attribution à la Russie et au Qatar des Coupes du Monde 2018 et 2022. C'est ce que révèle un document publié par le procureur fédéral américain de Brooklyn. Selon l'acte d'accusation, Jack Warner, l'ancien président de la Fédération de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a reçu 5 millions de dollars pour voter en faveur de la Russie. Le document cite également Rafael Salguero, ancien président de la Fédération guatémaltèque de football, qui se serait vu promettre 1 million de dollars en échange de son soutien à la candidature russe. La Russie a démenti avoir versé ses pots de vin à des dirigeants de la FIFA pour obtenir le droit d'organiser le Mondial 2018. Pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022, le document met en cause, entre autres, l'ancien président de la Fédération brésilienne Ricardo Teixeira et l'ancien président de la Confédération sud-américaine de football Nicolas Léos, décédé en août 2019. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a réaffirmé que l'attribution du Mondial 2022 au Qatar est liée à une intervention politique rejetant les accusations de la justice américaine faisant état de pots de vin pour attribuer les Mondiaux 2018 et 2022. En Italie, les clubs du championnat interrompus depuis le 9 mars ont trouvé un accord sur la réduction des salaires de leurs joueurs face à la crise provoquée par le coronavirus. Cette décision annoncée par la Ligue a été prise à l'unanimité des clubs de Serie A, à l'exception de la Juventus qui a précédemment trouvé un accord avec ses propres joueurs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, avec la fermeture progressive des marchés, le secteur informel est devenu l'un des plus touchés par la crise provoquée par le Covid-19. Entre les heures très réduites et la rareté des clients, les commerçants qui occupent les cantines et les marchands ambulants sont désorientés par la tournure des événements. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Dans les marchés de Dakar, le vacarme causé par l'afflux incessant de visiteurs a laissé place à un silence assourdissant qui n'est perturbé que par les salamalecs échangés entre les commerçants et les rares clients qui viennent acheter des denrées de première nécessité. Une situation causée par les mesures restrictives imposées par les autorités, selon Cheikh Tidiane Gueye, commerçant et délégué du marché Fitmich dans la banlieue de Dakar.
Vraiment, actuellement, nous souffrons énormément parce qu'au niveau de la commune même, le sous-préfet nous a donné ordre de cesser d'exercer dans le périmètre du marché depuis le démarrage de l'état d'urgence. Pour le moment, c'est tout simplement ceux qui vendent les denrées alimentaires ont le droit d'exercer dans les périmètres des marchés. Donc, si quelqu'un, pour avoir sa, une dépense quotidienne, doit venir au marché, s'il reste à la maison, vraiment, ce sera une catastrophe. Vraiment, actuellement, les commerçants souffrent.
Même s'ils sont autorisés à ouvrir durant la journée, les vendeurs de produits agroalimentaires ne sont pas mieux lotis. Pour eux, les ventes sont en chute libre, comme l'explique Damfal.
Notre activité a considérablement baissé de rythme. On travaille de 8h à 19h, ce qui est insuffisant car le commerce marche plus le soir jusqu'à 22h. Le jour, notre activité est au ralenti, alors que le soir, ça marche à merveille parce que les gens passent acheter en quittant le travail. Mais avec le couvre-feu, c'est difficile pour nous, d'autant plus que les clients ne viennent plus comme avant car ils ont peur d'une part d'être contaminés et d'autre part de sortir à cause du couvre-feu.
Considérablement affectés par l'état d'urgence et le couvre-feu, les acteurs du secteur informel sont dans le flou total. Cheikh Nying indique qu'ils ne savent même pas s'ils auront un accompagnement de l'état.
Tout est bloqué et la situation est très compliquée. On vient juste parce qu'on ne peut pas rester à la maison les bras croisés, mais vous voyez qu'il n'y a absolument rien. On se débrouille tant bien que mal, cependant, nous avons entendu le chef de l'État annoncer 1 000 milliards pour aider les acteurs économiques, mais jusqu'à présent, aucune précision concernant les commerçants et les marchands que nous sommes. Avoir des précisions par rapport à cela va nous encourager à rester à la maison auprès de nos familles. Mais pour le moment, nous sommes obligés de venir au marché pour assurer la dépense quotidienne.
Au Sénégal, les acteurs du secteur informel ne cachent pas leur désarroi. Plombés par l'état d'urgence sanitaire et ses conséquences sur leur business, ces commerçants, vendeurs et marchands ambulants voient leur chiffre d'affaires baisser au fil des jours avec la fermeture des marchés et l'absence de mesures d'accompagnement. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Pas de célébration de masse pour la Semaine Sainte et la Pâque au Burkina Faso cette année. Pour éviter la propagation du coronavirus, la conférence épiscopale a décidé de la fermeture des églises. Dans l'Ouest, à Bobo-Dioulasso, ce silence des églises se fait plus que jamais sentir avec la Pâque qui s'annonce. Correspondance d'Aludou Ouedraogo.
Vous voyez la grandeur de cette église. Généralement, il n'y a même pas de place.
De mémoire d'homme, jamais un silence aussi pesant n'aura régné sur la paroisse Saint-Vincent de Paul en Semaine Sainte. Dans la grotte d'adoration, seule la statuette de la Vierge Marie scrute les hangars de pain de Pâques avec ses vendeurs endormis. L'église ayant rangé ses clochers et cessé ses chants, seulement des oiseaux accrochés quelque part à l'intérieur perturbent le sommeil de l'édifice vieil de plus de 50 ans. Nous y avons trouvé l'abbé Patrice Sanou devant l'autel.
Cette année, la célébration sera exceptionnelle. C'est juste les prêtres, quelques religieux et religieuses et quelques laïcs, ne dépassant pas 50 personnes qui vont se rassembler au niveau de l'église paroissiale pour célébrer en communion avec les autres fidèles.
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous dit-il.
Et c'est pour cette raison exceptionnelle que notre évêque a demandé que tous les chrétiens puissent célébrer la Pâque chez eux à la maison, mais en direct sur la radio Étoile de Noël qui est notre radio diocésaine.
Une semaine sainte sans Eucharistie met forcément des fidèles au désarroi.
Ce n'est pas chose facile parce qu'on ne l'a jamais vécu, une semaine sainte sans Eucharistie, ce qui fait vraiment pas simple à vivre pour nous. On va essayer de suivre les règlements et puis prier Dieu pour que le coronavirus puisse passer le plus tôt possible.
Pour que le monde soit sauvé là, ça vient de Dieu. Et Dieu c'est quoi? C'est la prière pour délivrer le monde. Mais si tu es seul à la maison, du coup c'est difficile.
Égrenant son chapelet dans un coin de la paroisse, Martine Yabré, elle, ne se désole point.
Ces temps sont durs pour nous tous. À cause du coronavirus, nous ne pouvons plus venir prier comme avant. Chaque jour, je viens donc demander à la Vierge Marie de nous aider à surmonter cette épreuve pour la gloire de l'humanité.
Pour l'abbé Patrice Sanou, ce virus tueur qui attaque le monde en même temps vient rappeler à l'humanité combien nous sommes d'une seule et même chair. Alidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Cameroun appelle les habitants de deux villages situés à la frontière avec le Nigeria à sortir de leur cachette et à rentrer chez eux. Deux adolescents se sont fait exploser ce week-end, tuant au moins 10 civils. L'armée assure que la zone est sécurisée, mais les habitants peu rassurés croient que ces villages sont infiltrés par Boko Haram. Le point avec Lionel Gahima.
S'exprimant dans une application de messagerie depuis le village de Blama Kamsoulou dans le nord du Cameroun, Adamou Sidiki, responsable communautaire, affirme que des dizaines de personnes ont fui depuis l'attentat suicide de dimanche dernier.
Ça crée vraiment une psychose. Ça fait pas longtemps, les Boko Haram ont tué plus de 90 soldats tchadiens. Maintenant, c'est un attentat. Ce qui montre que Boko Haram est de retour avec force. Dans ce cas, il faut vraiment que l'armée camerounaise déploie plus de forces afin de subvenir à la protection des Camerounais.
Le gouvernement de Yaoundé a précisé lundi dans un communiqué que deux kamikazes avaient été repérés la veille près de l'école primaire de Blama Kamsoulou. Et toujours selon les autorités camerounaises, lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient surveillés, ils se sont précipités vers la demeure d'un chef traditionnel et ont fait détonner leur charge d'explosifs. Le bilan est lourd, d'après Roger Safo, secrétaire général du bureau du gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun.
Sur place, il y a 9 morts et 15 blessés. Je veux saisir l'occasion pour appeler la population à être plus vigilante, faire preuve de prudence et collaborer avec nos forces de sécurité.
Il a ajouté que les blessés ont été transportés vers un hôpital de la ville voisine de Mora, où plus tard, l'un d'eux a succombé. 9 autres sont dans un état critique. Mijiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord, a fait savoir qu'il avait pourtant ordonné aux soldats de se déployer dans les villages frontaliers pour empêcher toute infiltration.
La population, le comité de vigilance notamment, essaie de mobiliser pour accompagner nos forces de défense et de sécurité, leur fournir le renseignement nécessaire pour qu'ils puissent réagir en temps réel. Ce qui exige donc que nous soyons davantage beaucoup plus vigilants.
Le 24 mars, le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé que 92 soldats de son pays ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram qui a duré plusieurs heures à Bohoma dans la région du lac Tchad. Selon lui, 24 véhicules de l'armée, dont les voitures blindées, ont été détruits et des armes emportées dans des vedettes rapides par des éléments de Boko Haram. Le groupe a également renouvelé ses attaques contre l'armée nigériane, tuant au moins 70 soldats dans une embuscade près du village de Goneri, dans l'état de Yobe le mois passé. Le Cameroun n'a pas signalé d'attaque d'envergure de Boko Haram ces 2 derniers mois, mais les djihadistes y reviennent régulièrement pour s'approvisionner en nourriture, kidnapper des personnes ou demander des rançons. C'est une autre manière de préparer la guerre lorsque presque tous les pays du monde entier sont paralysés par la peur d'un autre ennemi aussi invisible que meurtrier, le nouveau coronavirus.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Au Rwanda, les moyens de transport électrique sont en plein essor. Les voitures, mototaxis et vélos électriques facilitent les déplacements à travers le pays. Pour le gouvernement de Kigali, il s'agit de moyens à la fois peu coûteux et respectueux de l'environnement. Jacques Aristide nous en dit plus.
Elles ont récemment fait leur apparition à Kigali. Des voitures électriques e-Golf circulent dans les rues de la capitale rwandaise avec moins de bruit de moteur. Le Rwanda est le premier pays africain où le constructeur automobile Volkswagen a introduit son e-Golf. Nadej Gadjou est responsable des ventes et du marketing chez Volkswagen Rwanda.
Being the first African country with the electric Golf.
Être le premier pays africain avec la Golf électrique est une fierté, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour le pays. Nous voulons être en avance sur les tendances. Nous voulons protéger notre environnement. Nous voulons améliorer la vie des gens.
Make the lives better for the people.
La compagnie allemande a également choisi le Rwanda pour tester son application mobile de l'autopartage Move, des véhicules électriques à réserver par téléphone portable. Elle compte environ 27 000 utilisateurs qui ont effectué plus de 70 000 trajets à la fin de l'année dernière. William Nyagakiza est l'un des clients.
E-Golf. La e-Golf est une voiture qui est très, très silencieuse. Lorsque vous êtes dans la voiture, vous n'entendez aucun bruit qui vous dérange tout au long de votre trajet.
Les importations d'essence comptent pour 12% de tous les produits importés par le Rwanda. C'est donc le plus gros produit d'importation. Une dépendance que le gouvernement entend réduire. C'est pourquoi des mototaxis électriques ont également été lancés avec des batteries rechargeables et interchargeables. Ces motos électriques sont fabriquées par la firme Ampersand. Josh Whale est son PDG et fondateur.
Nos motos électriques pourraient remplacer jusqu'à 60% du parc automobile que constituent les taxis motos au Rwanda, mais qui sont actuellement des motos thermiques.
Il y a 160 000 opérateurs de mototaxis au Rwanda, des jeunes pour la plupart. Didier Tabaré en fait partie et conduit déjà une moto électrique.
La batterie de cette moto est moins chère. De nombreux passagers préfèrent ce véhicule. Il n'y a pas de pollution, pas de bruit.
Et si la moto n'est pas pour vous, pourquoi pas un vélo électrique? Safi Moto propose des scooters et des vélos électriques au Rwanda. Son directeur marketing, Umuhoza, est là, Pamela.
Nous n'avons pas assez de bus. Ce qui nous a poussé à proposer ces scooters et ces vélos électriques. Leurs prix sont abordables et ils sont faciles à conduire.
Pour l'heure, une centaine de scooters électriques et de vélos électriques sont utilisés à Kigali. Pour Chelsea Wemarika, 22 ans, ils sont très pratiques.
Vous n'avez pas besoin de pédaler, vous l'allumez et vous n'avez qu'à utiliser les freins. Cela ne nécessite pas beaucoup d'efforts.
Le Rwanda tente de réduire la consommation de carburant et d'encourager les investissements privés dans les solutions de mobilité électrique dans le cadre d'une transition vers une économie plus verte d'ici à 2030.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevilla et de Michel Joseph pour la mise en œuvre. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.